Bonjour à toutes et tous, vous écoutez RFI, il est 4h à Kinshasa, 3h en temps universel.
Diane Berger.
Joseph Kabila a commencé ses consultations à Goma. L'ancien président de la République démocratique du Congo promet de jouer sa partition pour obtenir le retour de la paix dans l'est du pays. Le Hamas rejette la proposition américaine de cesser le feu à Gaza. Israël annonce de son côté la création de nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. De quoi exacerber encore plus les tensions dans la région, vous l'entendrez. Nous reviendrons également dans ce journal sur l'arrivée d'un juge français, Mathias Guyomard, à la tête de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis on ira en Belgique, 40 ans après le drame du Heysel, ce mouvement de foule meurtrier dans un stade vétuste lors de la finale de la Ligue des Champions. Encore aujourd'hui, le site souffre de son mauvais état. Aucune photo ni vidéo n'avait filtré de lui jusque-là, c'est chose faite. Joseph Kabila, à Goma, depuis la nuit de dimanche à lundi, a entamé ses consultations dans l'est du pays. Hier jeudi, l'ancien président a donc reçu dans l'une de ses résidences de la capitale provinciale du Nord Kivu des représentants des confessions religieuses. Patient Ligodi revient pour nous sur ce que l'on peut retenir de cette première consultation.
C'est à Kinyogoté, au bord du lac Kivu, à l'ouest de Goma, dans l'une de ses résidences, que Joseph Kabila a reçu les religieux. Tête rasée, moustache soignée, costume sombre, l'ancien président s'est montré peu bavard, fidèle à son habitude. Pendant environ 50 minutes, il a échangé avec ses invités, musulmans, membres des églises de réveil, représentants de l'armée du salut, orthodoxes, protestants et d'autres encore. Pasteur Joël Amourani, président de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu, a conduit la délégation.
L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays.
Selon le pasteur Joël Amourani, Joseph Kabila n'a pas dit qu'il prenait la tête d'une lutte armée. Les religieux lui ont même proposé un rôle plus neutre.
Nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'homme ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays. Et ce même talent existe encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir.
D'après l'équipe de Joseph Kabila, d'autres consultations sont prévues dès ce vendredi. Une feuille de route sera établie pour la suite et une conférence de presse est également annoncée.
Patient Ligodi, autre titre de l'actualité sur le continent africain, l'élection hier jeudi de Sidi Oulta à la tête de la BAD, la Banque africaine de développement. L'ancien ministre mauritanien de l'économie prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. La perspective d'une trêve s'éloigne à Gaza. Le Hamas répond être insatisfait par la nouvelle proposition américaine de cesser le feu, une version acceptée par Israël. Le mouvement islamiste palestinien estime qu'elle ne répond pas à ses demandes car elle ne permet pas, je cite, l'arrêt de la guerre et de la famine dans l'enclave palestinienne. Dans le même temps, Israël a aussi annoncé hier la création de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, une annonce désapprouvée par une partie de la communauté internationale. Pour Hasni Abidi, directeur du Centre d'études du monde arabe et méditerranéen, l'accélération de la colonisation israélienne sape la possibilité d'une solution à deux États.
Ces décisions vont rendre plus compliquées, je dirais même anéantissent les projets de la solution à deux États. Et c'est une opération qui est voulue par l'extrême droite, par le gouvernement israélien, par une grande partie de la société israélienne qui malheureusement s'est droitisée. Et évidemment, les perspectives de paix, on les voit aujourd'hui s'affaiblir de jour en jour. Elles vont rendre aussi ces décisions compliquées. La conférence de mois de juin que va organiser le président français avec l'Arabie Saoudite, la coalition en faveur de la solution à deux États. Mais surtout à l'intérieur, ils vont radicaliser une partie donc des Palestiniens en Cisjordanie, une partie de l'autorité palestinienne, de l'OLP, tous ceux considérés par la communauté internationale comme des alliés de cette communauté internationale qui vont voir finalement donc les territoires palestiniens et notamment en Cisjordanie sous une nouvelle occupation.
Hasni Abidi qui répondait à Théo Conscience. L'État islamique revendique une attaque contre les nouvelles autorités syriennes. Il s'agit plus précisément d'une mine terrestre qui a explosé contre un véhicule des forces armées. Selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un homme a été tué et 3 membres de l'armée ont également été blessés. C'est la première attaque de l'État islamique depuis la chute du président Bachar al-Assad début décembre. Le groupe djihadiste avait contrôlé une large partie du pays jusqu'en 2019. Ce nouveau rebondissement aux États-Unis, une cour d'appel maintient en urgence les droits de douane de l'administration Trump, moins de 24 heures après une première décision demandant leur annulation. Mais ce maintien n'est que provisoire, le temps d'examiner le fond du dossier. Mercredi, le tribunal de commerce international des États-Unis avait estimé que les surtaxes non ciblées relevaient du pouvoir parlementaire et pas de celui du président américain. Donald Trump a lui dénoncé une décision horrible, je le cite, et politique. Changement de visage à la tête de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un juge français, Mathias Guillaumard, qui prend ce vendredi la présidence de la juridiction, un mandat de 3 ans, durant lequel il aura fort à faire. La Cour, qui doit statuer sur des dizaines de milliers de requêtes, est souvent critiquée par les États. Muriel Paradon.
Rien n'est jamais acquis. Lors de sa nomination le mois dernier, Mathias Guillaumard rappelait la nécessité de poursuivre le travail mené par la Cour européenne des droits de l'homme depuis sa création en 1959. Âgé de 56 ans, cet énarque qui a fait toute sa carrière au Conseil d'État en France avant de rejoindre récemment la CEDH aura de nombreux défis à relever. La Cour, censée veiller à l'application de la Convention européenne des droits de l'homme dans les 46 États membres qui l'ont ratifiée, la Cour est de plus en plus critiquée. La semaine dernière, par exemple, 9 pays européens, emmenés par l'Italie de Giorgia Meloni, ont publié une lettre ouverte remettant en cause les décisions de la CEDH sur le dossier de l'immigration notamment. Saisie par des États ou des particuliers, la Cour doit statuer sur des dizaines de milliers de requêtes. Ces arrêts s'imposent aux pays concernés qui doivent modifier leur législation ou leurs pratiques. Dans un contexte de guerre où les attaques contre l'État de droit se multiplient, nous devons être conscients, assure Mathias Guillaumard, de nos responsabilités et jouer pleinement notre rôle.
Dans un des pays membres de la CEDH, justement, la répression s'accentue. En Géorgie, un célèbre opposant a été arrêté hier par la police, Nika Melia. Son avocat parle même d'un kidnapping. Le ministère de l'Intérieur répond qu'il a été placé en détention pour avoir insulté un agent des forces de l'ordre. Tout cela alors que l'opposition dénonce depuis des mois les pratiques de plus en plus autoritaires du gouvernement dans cette république du Caucase. En octobre dernier, la victoire annoncée du parti au pouvoir Rêve géorgien a provoqué d'importantes manifestations sur fond d'accusations de fraude électorale. L'ambiance s'annonce électrique samedi soir pour la finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affrontera l'Inter Milan à l'Allianz Arena de Munich. En revanche, il y a 40 ans, presque jour pour jour, cette finale du tournoi de football européen avait tourné au drame. C'était en Belgique, le 29 mai 1985, la catastrophe du Heysel, 39 morts dans une bousculade entre supporters anglais et italiens dans le plus grand stade de Bruxelles. À l'époque, les hooligans, l'organisation, mais aussi la vétusté du stade ont été pointés du doigt. Et 40 ans plus tard, malgré des travaux d'ampleur, l'état du site reste un sujet de préoccupation. Elena Loison.
Oui, la liste des travaux est longue et ne cesse de s'agrandir. Les pylônes sont rongés par la rouille et ne répondent pas aux normes pour les retransmissions télévisées, tout comme les grillages anti-envahissement de terrain ou encore le toit qui ne retient plus l'eau. Résultat, à chaque averse, la pluie tombe sur la pelouse, stagne et détruit le terrain à petit feu, à tel point qu'il y a un an et demi, l'équipe nationale de foot avait dû jouer son match à Louvain en catastrophe pour cause de terrain impraticable. Cela fait plus de 10 ans que le sujet du stade occupe les esprits politiques, sa démolition est un serpent de mer. On a un temps évoqué la construction d'une nouvelle enceinte, à l'époque saluée avec soulagement par Eden Hazard, la star des Diables Rouges.
Pas que pour le football, mais pour le sport belge en général. Je pense qu'on se doit d'avoir un nouveau stade, et pour, pas que pour les joueurs, pas que pour les athlètes, pour les fans aussi.
La mairie de Bruxelles refuse d'engager seule les travaux, estimés à près de 220 millions d'euros. Du côté de la Fédération belge de football, le désengagement est de plus en plus clair. À partir du mois de septembre, les Diables Rouges devraient jouer leur rencontre dans les divers stades de Belgique et déserter pour au moins quelques temps le stade Roi Baudouin. Elena Loison, Bruxelles, RFI.
Et puis en tennis, un vétéran chassé de la terre battue hier à Roland-Garros. Le français Gaël Monfils a été éliminé dans la soirée dès le deuxième tour du tournoi, battu par Jack Draper, le britannique actuel numéro 5 mondial. Un autre français éliminé hier, c'est Richard Gasquet, battu en 3-7 par Yannick Sinner. C'était le dernier match de sa carrière. Le tennisman de bientôt 39 ans prend sa retraite. C'est la fin de ce journal. Merci d'écouter RFI.